En août dernier, quelques semaines après l'attentat de Nice, SOS Racisme s'inquiétait de la multiplication des propos racistes, une conséquence selon l'association des attaques terroristes. Depuis quelques temps, le contexte de tension engendré par les attentats semble avoir libéré la parole et les actes racistes, des propos qui visent surtout les musulmans. La linguiste Marie Treps s'est intéressée aux mots du racisme et à la fabrique des insultes. Elle publie « Maudits mots » chez Tohu Bohu, un ouvrage dans lequel elle raconte comment a été inventée et imaginée cette logorée malsaine. Marie Treps, c'est mon invité dans un instant, avec à ses côtés l'écrivain Tahar Ben Jelloun, qui publiait en 1998 au Seuil « Le racisme expliqué à ma fille ». J'attendais maintenant vos messages, vos témoignages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la vague de froid qui arrive et une demande en électricité qui pourrait approcher son record historique.
Oui, des pointes de consommation attendues cette semaine qui inquiètent les distributeurs. On vous explique pourquoi la France et son nucléaire sont mal armés contre le froid avec le physicien Bernard Laponche.
Et c'est Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission préparée par Chantal Le Montagnier avec Pierre De Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La fabrique des insultes racistes, ce sera donc le dossier de l'émission dans quelques minutes avec mes invités que je salue, la linguiste Marie Treps et l'écrivain Tahar Ben Jelloun. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mathieu.
Marie Treps, Bamboula, Youpin, Nyakwe, bronzé, mangeur de chiens, voici quelques-uns des mots maudits cités dans votre livre et certains d'entre eux ne sont pas récents. Vous montrez que les secousses de l'histoire ont toujours entraîné avec elles la fabrique de ces mots. Hein.
Oui, c'est à chaque fois. Enfin, pardon. À plusieurs reprises, la société française s'est trouvé en contact avec des autres, plus ou moins lointains, et ça a favorisé le développement de courants racistes. Ça peut commencer de manière assez pas spécialement lourde, et puis s'alourdir au fil d'événements importants comme les guerres, les colonisations, les immigrations vers la France, peut-être aussi des immigrations qui ont suivi les époques coloniales, ou des guerres avec des proches voisins, ou aussi un racisme qu'on a appelé anti-judaïsme et aujourd'hui antisémitisme, qui est lui très ancien, puisqu'il date du Moyen-Âge, et c'est un autre de l'intérieur cette fois, c'est pas quelqu'un quoi, et qui est là et qui est stigmatisé depuis longtemps.
C'est donc cette enquête que vous avez menée, on va en parler avec vous, Tahar Ben Jelloun. Est-ce que vous n'êtes pas désespéré par justement la libération de cette parole raciste ces derniers mois, en particulier vous qui luttez inlassablement contre le racisme?
Non, il faut pas être désespéré, il faut être réaliste et continuer le combat, parce que ça commence avec les mots, ça commence avec les insultes parfois un peu comme ça, et ça se termine dans des chambres à gaz. Donc, je dis toujours aux enfants que je vais voir dans les écoles, ouais, tout est grave. Si tu dis ça à l'arabe ou ça à juif, sache que ça peut se transformer en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave. Et ils se rendent pas compte, les enfants, parce que finalement, pour eux, c'est un jeu. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le racisme est planétaire, universel, et toute société a ses insultes pour les autres. Et finalement, tout le monde s'insulte et c'est partout la même chose. Et si on ne lutte pas par l'éducation, la pédagogie dès l'école primaire, ben ça va se répandre de plus en plus.
On en parle avec vous, bien sûr, dans quelques minutes, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Il va donc faire froid cette semaine, on vous le répète depuis quelques jours, et la France risque de manquer d'électricité pour chauffer tout le monde.
La semaine dernière, je suis sorti dehors, et là...
Oh putain, il fait froid !
Je suis rentré. J'ai mis mes grosses chaussettes de ski, un col entre moche mais que personne ne verra, et j'ai pas mis de bonnet, je suis sorti.
Oh putain, il fait froid!
J'ai mis un bonnet, j'ai expiré de l'air, j'avais l'impression de fumer des gauloises sans filtre, ça m'a fait marrer deux minutes et puis...
Putain, il fait froid!
Voilà, Météo France qui annonce 3 jours sans dégel à partir de ce soir et pour une grande partie du territoire. Une vague de froid qui va entraîner une consommation record d'électricité et une situation redoutée par le gestionnaire du réseau d'électricité français qui n'exclut pas de devoir mobiliser des moyens exceptionnels. Pour en parler, nous sommes en studio avec Bernard Laponche. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur de l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, membre de l'association Global Chance, expert de la transition énergétique. Et puis dans ce studio, bien sûr, comme tous les lundis, notre partenaire du magazine Reporter.net, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
On commence d'ailleurs avec vous par un petit bulletin météo de l'électricité. Hervé, à quoi faut-il s'attendre dans les jours qui viennent?
Peut-être à faire provision de bougies, puisqu'il n'est pas impossible que le nucléaire nous fasse revenir à la bougie. En effet, on attend une vague de froid. Météo France va le confirmer cet après-midi. Peut-être moins 6 à moins 18 degrés Celsius par rapport à la normale saisonnière. Or, quelles conséquences cela a-t-il sur le parc? Eh bien, 1 degré de température en moins entraîne une hausse instantanée de la consommation électrique fournie par 2400 MW, autrement dit par deux réacteurs. Pour faire simple, plus il fait froid, plus on a besoin de réacteurs nucléaires. Et c'est donc près de 10 réacteurs qui vont être nécessaires pour faire face au général hiver cette semaine. Mmh. Or, le parc nucléaire français est à la limite de ses capacités. On attend une pointe de consommation fournie par 101 MW jeudi. Ça serait presque autant que le record du 8 janvier 2012. Et c'est une situation qui est aussi inquiétante parce que selon l'autorité de sûreté nucléaire, plusieurs réacteurs nucléaires présente un défaut structurel, une concentration excessive de carbone dans plusieurs composants, ce qui les fragilise.
Que de bonnes nouvelles en prévision, Axel.
Alors Bernard Lapente, on l'a un peu compris avec Hervé, mais comment ça se fait que quelques degrés de moins, puisque là, moins 6 ou moins 10, c'est pas grand-chose, soit si problématique pour le réseau électrique français?
Mais le réseau électrique français, ou le système électrique français, présente deux défauts, d'une certaine façon, contradictoires. Du côté de la consommation, il y a une spécificité française qui est le chauffage électrique. Mmh. Alors le chauffage électrique, je crois que c'est le tiers des ménages qui sont équipés d'un chauffage électrique. Et comme par hasard, quand il fait froid, les gens se chauffent.
C'est étonnant. Ouais.
Ce qui n'est pas exceptionnel, c'est qu'il fasse froid. Mmh. Ce qui est anormal, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoive qu'il fait froid et qu'on ait des problèmes avec le système électrique. Pourquoi ? Parce que l'électricité ne se stocke pas. Et donc, il faut immédiatement fournir la puissance électrique nécessaire pour les radiateurs électriques. Alors, c'est catastrophique, parce que, comme l'a dit Hervé, vous avez un degré de différence, ça vous fait une puissance de l'équivalence de deux réacteurs. Et donc, c'est catastrophique, parce que vous passez d'une puissance moyenne sur l'année de 50 gigawatts, donc 50 000 mégawatts, l'équivalent de la production de 52 réacteurs, à 100 ou à 102. C'est-à-dire que cette espèce de pointe double tout d'un coup la nécessité de puissance.
Ouais.
Donc c'est complètement idiot parce que il faut se chauffer avec une énergie qui se stocke. C'est-à-dire le bois, le charbon, le gaz, le chauffage urbain. C'est-à-dire, ben, s'il fait plus froid, vous tirez un peu plus sur vos réserves. Là, vous ne pouvez pas, vous devez fournir immédiatement. Et la pointe française, c'est-à-dire l'augmentation due à ce phénomène, est le double de la pointe européenne. Et si on fait une comparaison, puisqu'on se compare toujours à l'Allemagne, 81 millions d'habitants, la France métropolitaine, 64 millions d'habitants, donc beaucoup plus de gens. La puissance de pointe de l'Allemagne en 2014, 74 gigawatts, 74 000 mégawatts, et en France, c'est 80 ou 90. Donc la pointe française est bien supérieure à la pointe allemande.
Pour une population moins importante.
Pour une population qui est nettement plus faible. Tout ça à cause du chauffage électrique.
Ouais. Il nous faudrait donc plus de centrales, alors, c'est ça?
Alors, deuxièmement...
Provocateur.
Ça, c'est du côté de la consommation. Donc, cette spécificité, qui date du début des années 70, qu'on a encouragé, puisqu'on avait beaucoup d'électricité fournie par les centrales nucléaires, donc on a encouragé le chauffage électrique, et on se trouve dans cette situation où chaque fois l'hiver, on s'aperçoit qu'il fait froid. Du côté de la production d'électricité, on pourrait dire, ben c'est très bien, on va avoir un système de production qui va répondre à cette demande, capable de faire la pointe. Or, le système français est à 75% nucléaire. Mmh. Le nucléaire n'est pas fait du tout pour la pointe, il est fait pour la base, c'est-à-dire fonctionner en permanence. Et donc, ce qui manque, c'est pas ce qu'a dit Hervé, il manque pas deux ou trois réacteurs, il manque une production d'électricité presque instantanée, c'est-à-dire valable pendant un mois ou deux, susceptible de répondre à cette pointe. On les a pas. Et donc, tout d'un coup, panique à bord, il va falloir importer de l'électricité, ce qui est limité d'abord par la puissance des lignes d'interconnexion et la capacité des pays voisins de nous vendre. On va payer ça extrêmement cher, parce que vous voyez bien qu'au sommet de la pointe, ça sera difficile. Et donc, on a une situation dégradée du point de vue du système électrique.
Eric Kempf.
C'est une situation dans laquelle il y avait presque une dizaine de réacteurs qui étaient arrêtés en novembre et début décembre, parce que l'autorité de sûreté nucléaire avait constaté des défauts dans la composition d'un certain nombre de composants. les jugeant importants, graves pour la sécurité, ils ont réautorisé le fonctionnement de ces réacteurs. Est-ce qu'on peut avoir aussi une crainte sur la sûreté nucléaire dans les jours ou les semaines qui viennent?
Oui, alors cette crise, paradoxe, c'est anormal, parce que si vous voulez, à partir du moment où on a découvert sur un certain nombre de réacteurs, 18 réacteurs sur 58, c'est quand même presque pratiquement le tiers du parc français, des anomalies dans la teneur en carbone des aciers. Et par conséquent, on a des réacteurs dont la sûreté nucléaire est dégradée. Mmh. Bon, alors, on arrête un certain nombre de réacteurs. Il y en a un, de toute façon, qu'on a arrêté parce que c'était une catastrophe totale. Donc là, il n'est pas question de redémarrer. Et un certain nombre d'autres sont autorisés à redémarrer, et en particulier sous la pression de cette histoire de pointe de froid, ce qui est tout à fait anormal.
Oui.
Vous avez d'un côté la sûreté, ce qui est un problème très grave, et de l'autre côté, le fait que peut-être il y aura des problèmes avec la fourniture.
C'est-à-dire qu'on va pousser les réacteurs au pire des moments, finalement.
Hein. Alors, au pire des moments, et il y en a 5 à 7 au moins sur les 18 qui devraient être arrêtés actuellement, et qui ne le sont pas parce que justement, on dit, ah ben voilà, il faut passer l'hiver, ce qui est très grave.
Axel, dernière question, oui, très vite.
Quels sont les leviers qui vont être activés là cette semaine pour vraiment pallier à la demande et que tous les Français soient au chaud chez eux, même s'ils se chauffent à l'électrique?
Bon, il y a les leviers du côté du réseau de transport, ce qu'a dit Hervé, c'est-à-dire la possibilité d'importer de l'électricité, la possibilité éventuellement de faire des délestages auprès de très gros consommateurs industriels, c'est-à-dire les prévenir en leur disant, écoutez, demain, il faut que vous réduisiez votre consommation, vous utilisez votre diesel. Tout ça coûte très cher, mais c'est faisable. Ce qui est plus grave, c'est cette histoire de sûreté nucléaire, c'est-à-dire que on sacrifie quand même. C'est très difficile d'estimer le risque, mais il y a au moins 5 réacteurs qui ont des aciers fabriqués au Japon, dont on sait très bien que la teneur en carbone est beaucoup trop forte. Et ils devaient être arrêtés. Et ils ne sont pas arrêtés en se disant, bon, quelques jours de plus, une semaine ou deux de plus, c'est pas très grave. En fait, on a une situation dégradée qui est prouvée par le fait que, en autorisant ces redémarrages, EDF dit qu'il faut des mesures compensatoires.
Quels sont les réacteurs que vous citez exactement?
Les 5 de mémoire, je sais pas, je connais les réacteurs arrêtés aujourd'hui.
Ouais.
Les 5, c'est ceux qui sont fabriqués au Japon. Et donc on court un certain risque, je peux pas du tout dire que c'est absolument certain qu'il y aura un accident.
Ah ben on l'espère. Ouais.
Mais c'est totalement anormal du fait d'une erreur initiale sur le système électrique et sur la consommation d'électricité. Donc il faut faire de façon générale des économies d'électricité et pas seulement les 3 jours de froid, réduire la consommation et réduire la pointe.
Bon,
de façon à pouvoir passer.
On va retenir notre souffle alors.
Les hivers prochains.
Pour les jours qui viennent. Merci beaucoup Bernard Laponche. Axel, on peut signaler que pour ceux qui souhaitent participer à l'effort d'économie d'énergie, il y a une application téléphonique intéressante.
Oui, on peut télécharger sur son téléphone l'application Eco 2 Mix qui vous alerte en cas de grosse demande dans votre région et qui vous guide pour réduire votre consommation rapidement. On a mis des liens sur les réseaux sociaux.
Et on retrouve bien sûr cette information sur le site reporter.net. Merci beaucoup à tous. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la zone du cerveau responsable de la prédation identifiée chez la souris. C'est ce que révèle une étude impressionnante menée par des neurobiologistes de Yale. Les chercheurs ont infecté des souris avec un virus, rendant leur amygdale dans le cerveau sensible à la lumière. Ils l'ont ensuite stimulé avec un laser et immédiatement la souris s'est dressée sur ses pattes arrière et a contracté les muscles de sa mâchoire en quête de proie. Grâce à des études comportementales, ils ont confirmé que cette attitude n'était causée ni par la faim ni par l'agressivité. On sait donc désormais que l'amygdale, en plus d'être responsable de l'instinct de peur, contrôle également celui de la chasse. N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites du sport. Écrire des SMS ou téléphoner pendant une séance de course à pied diminue respectivement de 45 à 19% votre stabilité posturale. Selon 2 études américaines, l'usage du téléphone divise l'attention, modifie l'équilibre, exposant davantage les sportifs à des blessures musculaires ou squelettiques. La seule utilisation du portable qui n'impacte pas votre posture, c'est l'écoute de la musique. Et puis le génome du café arabica pour la première fois entièrement séquencé, 1,19 milliard de paires de bases, 78 830 gènes. Voici donc le génome Coffea arabica, l'espèce de café la plus consommée au monde. Ce séquençage, commandé par la firme alimentaire Suntory Group, a été intégralement rendu public hier à San Diego. Opération qui a pour but d'aider à l'élaboration de nouvelles variétés de café plus résistantes aux maladies et aux changements climatiques. En effet, les caféiers ne poussent que dans des conditions très spécifiques. Or, les changements climatiques menacent chaque année davantage les zones actuelles de culture du café. Et les mots du racisme, c'est le dossier dans un instant. Onward, Falling Out avec Otseki à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Avec les mots du racisme cet après-midi dans le dossier de l'émission, la linguiste Marie Treps et l'écrivain Tahar Benjelloun sont donc mes invités avec vos messages, toutes vos questions sur le site franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Marie Treps, vous êtes sémiologue, linguiste, chercheur au CNRS et donc vous publiez chez Tohu Bohu, Maudit mot, la fabrique des insultes racistes. Tahar Benjelloun, vous êtes écrivain, prix Goncourt 87 pour La Nuit Sacrée. Et puis en 98, vous sortiez au Seuil, Le racisme expliqué à ma fille, qui a été un énorme succès dans le monde entier, qui continue toujours à être réédité.
Réédité avec d'autres textes, parce que c'est revu, corrigé, augmenté, parce que le racisme ne s'est pas arrêté avec mon bouquin. Là.
Bien au contraire. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Oui, ça a toujours existé quand même.
Mais on en parle plus facilement.
Oui, et la période que nous vivons par rapport à même 98 a quand même beaucoup changé dans
ce domaine-là. Ah oui, une espèce de banalité, des insultes. Oui, bien sûr.
C'est ça.
Et une augmentation des lois.
Et oui, et pourtant, les mots n'ont pas disparu loin de là. Hein, on les contourne autrement, d'ailleurs, ces lois.
Oui, Marie Treps, on les contourne.
Vous l'évoquez dans cet ouvrage. Oui. Comment, justement, d'abord, j'aimerais vous demander, comment vous êtes ressorti, vous, de cette enquête, après avoir écrit donc ce livre qui recense les insultes racistes des plus insignifiantes aux plus outrageantes?
C'est comment j'y suis rentré, la question. C'est-à-dire que ma curiosité pour les mots et ce qu'il révèle de notre société et de son imaginaire devait un jour ou l'autre, bon gré mal gré, me conduire à ces mots-là.
Et on est loin des mots caresses, par exemple.
On est loin des mots caresses, c'est l'inverse. Ouais. Oui. Et j'en suis sortie. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, et c'est ce que je voulais faire. Et surtout, je me disais, quand je me suis aperçue que ces insultes, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, qui donne l'impression que c'est récent, la parole raciste se libère. Oui, se libère, mais c'est très ancien. Et je me suis demandé comment c'était venu. Ça n'arrive pas par hasard. Par quels événements? Le plus simple pour essayer de comprendre, c'était de faire l'histoire. Et je me suis engagée sur ce chemin-là. Et aussi, j'ai voulu prendre la forme d'une sorte de dictionnaire pour regarder le côté des définitions neutre, comme ça, comme dans un dictionnaire. Mais en même temps, je perdais toute la violence de la chose, de la réalité. Aussi, je me suis attachée à trouver, vraiment à chercher des exemples très anciens. Le plus ancien dans ce livre est un exemple de Ronsard, qui concerne les Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, dans les romans, dans la littérature. Et aussi des exemples choisis en fonction de chaque époque. Il y a des pics, il y a des moments, par exemple, prenons l'exemple des Juifs. Bon, le mot juif est un mot qui se charge de connotations très négatives dès le début. Mais les pires mots, youpin, youtre, ils arrivent au XIXe siècle. Pendant la Troisième République, ils font partie du débat public. Ils sont là dans les journaux antisémites. Et donc, à ce moment-là, j'ai voulu citer des écrivains qui donnaient le reflet de la société aussi, aussi bien des textes qui sont faits par des gens qui sont racistes ou xénophobes, que des textes faits par des gens qui ont subi la chose et qui racontent, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vrai que c'est une sorte d'enquête, comme vous le disiez tout à l'heure, et que j'ai fait au mieux pour la mener, et j'espère, à la fin du compte, que j'ai fait œuvre salutaire.
Ouais. Vous étiez heureuse quand même de mettre un point final aussi à cet ouvrage, parce que baigné en permanence dans ces mots du racisme, j'imagine que c'est une expérience aussi assez désagréable,
avec,
non?
Avec une sorte de passion, de curiosité, c'est vrai, et de rage. J'étais enragée à faire ce livre, et je voulais vraiment le faire, et trouver un éditeur qui me suive, et c'est ce que j'ai fait.
Avec Tohu Bohu, en l'occurrence. Tahar Ben Jelloun, expliquer les mots, retracer leur contexte historique, ça c'est une bonne façon de s'attaquer justement à ce problème.
Bien sûr, parce qu'il faut remonter à l'origine des choses et d'où ça vient. Alors évidemment que dès qu'il y a un déplacement de population, immigration voulue ou pas voulue, l'accueil est toujours accompagné de mots racistes.
Ça c'est une constante, hein, vraiment.
Oui, c'est une constante. Ouais. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est de trouver l'inventivité, l'imagination populaire, parce que il n'y a pas une seule personne qui fait ça, c'est un peu comme ça. Alors évidemment, parfois ça part du physique, les melons pour les Arabes. Alors youpin, c'est un mot assez hideux et que j'ai souvent entendu, et je me suis dit mais pourquoi youpin? Et parfois il suffit que le mot soit hideux pour qu'il soit raciste.
Oui, c'est sûr.
Quand par exemple on dit des Italiens rital ou macaroni, c'est moins hideux que youpin, parce que rital, c'est une forme un peu inversée du italien.
Oui, mais en fait, rital, ça vient de l'émigration, justement, parce que le racisme aussi vis-à-vis des Italiens vient en grande partie de là, avec l'immigration économique. Ils sont venus à la demande de la France, qui manquait de main-d'œuvre, mais après, dans les crises économiques,
ils ont été aussi très mal reçus, stigmatisés.
Donc la sonorité du mot, c'était
sur leur papier, on écrivait la mention RTAL, ce qui voulait dire réfugié ou réfugié italien.
Ah oui, donc c'est de là que ça vient. Oui, les mots sont choisis. Les insultes de bassesse, ils ont souvent une connotation sexuelle aussi. Alors par exemple, pour les Noirs, en arabe, on utilise abd, ça veut dire esclave. Azzi, c'est-à-dire qui est très 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 noir, c'est nègre. On utilise kahlouche, qui est une forme de nègre mais sale. Et ça, les gens le comprennent sans savoir le vrai mot. Et dire de quelqu'un de kahlouche, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait noir, il est sale.
Mais il y a des nuances incroyables.
Hein. Vous voulez dire que c'est dans la sonorité du mot que ça s'entend?
Oui.
C'est ça que vous voulez dire?
Oui, mais en même temps, il faut juste les mots. Alors, évidemment, c'est très répandu, et c'est parfois, ça part parfois de la cour de récréation des écoles aussi.
Bien sûr.
Et les parents.
Celui qui n'est pas tout à fait, qui est trop grand ou trop petit ou trop gros ou trop maigre.
Et les parents reprennent le relais.
Et là, c'est la même chose.
Vous arrivez à aller vraiment à la source des mots, Marie Trapp?
Oui, sûrement. Ouais. Bah, moi, j'ai d'abord un linguiste avec ses manies de linguiste. Je cherche. Souvent, j'ai la date d'introduction, l'année d'introduction d'un mot dans une langue.
Par exemple, c'est très précis.
Et alors, tous ces mots-là, comme bougnoul, bamboula, au début, ce que je disais en introduction, c'est qu'au départ, ils ont été recueillis, on a été faire des voyages exploratoires. On a vu des gens qui avaient l'air de s'appeler Bougnoul. Effectivement, c'est un mot wolof qui s'appelle, qui signifie noir. On recueille le mot. Mm-hmm. Effectivement, comme Schleu, il a été recueilli par les anthropologues et les linguistes. C'est le nom d'une. Et puis après, on le donne. Il s'alourdit au fur et à mesure de la colonisation. Oui. Le Bougnoul, on le retrouve. Le mot Bougnoul, on le retrouve dans l'infanterie et la marine coloniale. Et bah, c'est celui qui fait les corvées. Oui. Mais c'est très intéressant de suivre justement d'un bout à l'autre un mot, parce qu'ensuite on va le retrouver pour désigner les Maghrébins, mais en particulier les Algériens pendant la colonisation de l'Algérie, qui est le racisme s'aggrave avec la guerre d'Algérie, et ensuite quand les immigrés arrivent en France, fuyant la guerre ou après la guerre, après la fin de l'Algérie française, et ben on le mot Bougnoul suit. Et à ce moment-là, ben, on retrouve en France des gens qui sont pauvres, qui font les basses besognes. Et ce qui est le sémantisme, pour employer un gros mot, c'est-à-dire le sens précis du mot qui était là dès le départ, celui qui est corvéable, il nous a suivis jusqu'aujourd'hui, même si on n'en a pas conscience.
Dominique sur franceinter.fr nous dit: est-ce qu'il ne faudrait pas désacraliser l'insulte? Est-ce qu'on peut tout dire avec humour? Vous parliez des macaronis tout à l'heure, oui. On pense au roast beef, etc. Oui. Et nous, les mangeurs de grenouilles.
Mais avec humour, oui, mais en même temps, il faut faire attention, parce que ça peut se transformer en insulte grave. Et je voulais revenir sur le mot schleur. C'est un mot arabe. Enfin, c'est parce que ça vient des berbères du sud, du sud du Maroc. Je vois pas du tout le rapport entre schleur et allemand.
Oui.
Parce que, finalement.
Il y en a un, tordu.
Oui, très tordu, exactement, comme vous le montrez. Mais c'est quand même curieux. Je me suis dit, mais comment ce mot a voyagé? Du sud du Maroc jusqu'à la guerre, deuxième guerre mondiale.
Alors Marie Trebs.
Eh ben, il est arrivé par les Schleux, donc c'est une tribu et sa langue, la langue Schleu. Oui. Et dans l'armée qui était en Afrique du Nord, ça désignait les indigènes, mais avec ce présupposé fort que bon, ils parlent pas français, ils parlaient pas encore français. Mais... Ensuite, ça arrive avec les soldats qui viennent d'Afrique du Nord et qui se retrouvent dans les tranchées. Et là,
pour défendre la France.
Pour défendre la France.
Et on traite les Allemands du nom de ceux qui défendent la France.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est surtout à ce moment-là, on le donne à tous ceux qui ne parlent pas bien français. Il y a aussi bien des Polonais dans les tranchées que des Français. Oui. Et ensuite, dans la région de Metz, parce que c'est tout ça la guerre 14... On l'associe aux Allemands qui parlent mal français. Et alors, c'est un retournement, parce que depuis le berbère à la peau sombre qui nomanise, devient l'Allemand blond qui se bat au nom de la suprématie, la race blanche.
Et le mot berbère veut dire celui qui balbutie la langue... qui a donné barbare. Barbare, c'est celui qui ne parle pas notre langue. Donc berbère, barbare.
Est-ce que c'est raciste de la part des Arabes qui ne sont pas berbères?
Mais bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion, justement autour de ces maudits mots et la fabrique des insultes racistes. We'll be right back. Mandrax avec Julien Gasque à l'instant sur France Inter. Marie Trebstar, Benjeloun, nos invités donc pour parler des mots racistes avec vos messages qui arrivent sur franceinter.fr. Marie Trebstar, vous souhaitiez compléter la réponse à la question de notre auditeur le fait de pouvoir dire avec humour des mots qui parlent aussi des autres.
Oui, mais même on n'a pas besoin des mots à ce moment-là avec l'humour. Aujourd'hui, le fait que ce soit sanctionné, la prononciation de ces mots-là dans l'espace public, on a des stratégies d'évitement. Et une des stratégies d'évitement qui fait mouche, c'est de prendre les choses avec humour, de dire les choses avec humour. Les hommes politiques qui sont racistes ou antisémites, enfin sans le, ou les amuseurs publics qui en font profession aussi, se gardent bien d'employer les maudits mots, mais ils parlent par insinuation, éventuellement avec l'humour, ça passe encore mieux.
Oui.
Le sucre de l'humour fait passer le poison du racisme.
Mais il y a
c'est vrai,
les insinuations qui sont beaucoup plus graves,
bien sûr, qui passent mieux parce que c'est un peu drôle, donc c'est comme quelque chose de sucré qui fait avaler le poison.
Ouais, Tahar Benjelloun, justement, l'insulte xénophobe, elle est aujourd'hui portée sur la place publique en raison des sanctions juridiques. On en parlait tout à l'heure, mais pour autant, le racisme et les mots du racisme n'ont pas disparu. Justement, on les contourne habilement. Hein.
On les contourne et de toute façon, on ne fait pas assez d'éducation pour enrayer le racisme. C'est-à-dire que finalement...
Ça fait partie de vos propositions concrètes.
Oui, bien sûr. Vraiment. Il faut que ce soit à l'école qu'on commence à vraiment faire la lutte à tous ces préjugés, à tous ces mots ridicules, pas forcément le racisme de peau ou de religion, mais aussi le racisme vis-à-vis des différents, des garçons ou des filles qui ont une différence, soit physique, soit mentale. Bon, les handicapés notamment, ou ceux qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas majoritaire. Donc c'est un peu la lutte contre tout ça, mais que ça doit faire partie du corpus pédagogique. Mmh. C'est-à-dire comment on enseigne l'histoire, la géographie, on doit enseigner en permanence la lutte contre le racisme, mais d'une manière permanente, pas un jour par an, mais tous les jours, qu'il y ait une espèce de, que ce soit inclus dans tous les cours, que rappeler que nous sommes tous différents, nous sommes tous semblables et on ne doit pas tous s'aimer, c'est pas possible, mais on doit tous se respecter.
En 2006,
je crois que le racisme vient de ce qu'on perçoit une différence existe, de manière négative, et qu'on en fait une altérité indestructible, enfin irréversible.
Comme on dit, la nature a créé des différences et la société en a fait des inégalités.
Voilà.
En 2006, Caroline Cartier se demandait ce que la négritude était devenue. C'était à l'occasion du premier printemps des Assises Nègres qui avait lieu à la Maison de la Chimie à Paris en 2006, avec des intellectuels africains qui s'étaient réunis autour du thème de la négritude, cher à Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.
Oui. Vibre. Vibre. Mot. Le mot nègre. Vibre. En lasso ou me prendre. En corde ou me pendre. Nègre.
Moi, je me sens noir, pas nègre. Noir parce que c'est ma couleur de peau. Noir parce qu'on est africain. Noir parce que ça nous définit. Nègre veut dire une position subalterne, une position où, en fait, le noir est relégué à la place un peu de subordonné.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, en fait. C'est l'idée aussi du mouvement La Négritude. Justement, c'est que ce mot veut dire tout simplement noir, d'accord ? Et même si cette connotation négative a existé, maintenant elle n'existe plus. Et même si de temps en temps, on entend des racistes dire nègre, machin, ça n'a plus le même sens. Maintenant, on s'est approprié le mot et les rappeurs disent nigga, négro. C'est qu'on a exorcisé, en fait, le mot nègre. On l'a exorcisé, on l'accepte, quoi. Donc, ça choque pas. Enfin, moi, personnellement, ça me choque pas. Voilà, je suis nègre.
Et comme le mot soleil est un claquement de balles, et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire, le mot nègre, dru. Savez-vous, du tonnerre d'un été, que s'arroge des libertés incrédules.
Voilà, extra intéressant pour parler justement de ce mot nègre, parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce que finalement il n'y a pas un racisme à géométrie variable selon l'acceptation des mots? Parce que certains ne sont pas gênés avec ce mot nègre.
Mais là, dans la négritude, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des poètes qui ont repris le mot et ils l'ont aggravé exprès et ils ont fait une réponse de poète, par la poésie, par la grandeur d'âme. Et Aimé Césaire, très très grand poète, Senghor aussi, ils ont répondu à la haine et à ce mépris par quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est vrai que la négritude qui était très contestée, on l'a vu dans cette émission, mais depuis les années 40, a été très contestée parce que elle n'a pas été toujours bien comprise. Mais c'est bien qu'on reprend le mot. On reprend l'insulte et on le piège.
Ouais, et on le piège. On voit l'évolution des mots là aussi, c'est ça qui est fascinant dans cette histoire, Marie Treves.
Nègre, effectivement, il sentira toujours un peu l'esclavage. Hein. C'était au XVIIIe siècle, c'était nègre signifiait exactement esclave noir. On comptait en termes de prix, un nègre coûte ça, parce que bon... sur les marchés d'esclaves. Et puis, avec les philosophes des Lumières et l'abolition de l'esclavage, on a commencé à essayer d'évacuer ce mot-là. Ensuite, on l'a évacué vraiment au profit de Noir, qui lui-même pose des problèmes. Parce que selon qu'il est avec la majuscule ou la minuscule, absolument. Un jour qu'on demandait au président de SOS Racisme s'il avait écrit Noir avec une majuscule, est-ce que ce n'était pas avant tout politique pour affirmer qu'effectivement le peuple noir existait vraiment, il a répondu, je ne sais pas si c'était avec humour, mais il a répondu qu'il pensait simplement appliquer une règle grammaticale, un nom de peuple d'individu au pluriel. Eh bien, on met une majuscule. C'est un groupe d'individus. Si vous dites les Bleus ont gagné le match,
les Bleus,
on mettra une
majuscule. Football, c'est pas
on
un
mettra
peuple.
Une. Ben, non, mais ça concerne aussi une entité, un groupe d'individus. Par exemple, pour les Bleus, notamment. Bon, alors à ce moment-là, mais alors Noir peut encore poser des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des stratégies. Enfin, ça nous, c'est pas des stratégies spontanées. Les institutions nous l'insinuent comme ça. On va dire gens de couleur. Et puis, alors, c'est encore embêtant.
Mais y a pas
alors
moins
après,
racisme.
On va dire issu de la diversité ou minorité visible. Ouais. J'ai même entendu un anthropologue tout à fait respectable il y a une semaine qui, pour éviter le mot, disait personne d'apparence différente. Alors d'abord, c'est long comme ça. Et ensuite, ça veut dire que ça manifeste toujours une gêne, ouais, tous ces mots qui permettent qui sont censés éviter.
Tahar Benjelloun.
Oui, moi,
je peux excuser la gêne. Mais oui, il y a de la maladresse.
Je peux ajouter que le racisme disparaît pas parce que le mot... Il y a des expressions qui sont tellement ancrées. Par exemple, Jean-Paul Guerlain qui dit « je travaille comme un nègre » et ça a fait...
Oui, mais ça, c'est des expressions qui sont passées dans le langage courant.
Oui, qui sont passées dans le langage courant. Mais quand même, reproché vivement.
Non, mais j'ai une anecdote que je raconte dans le livre. Un de mes enfants, à l'époque, était en maternelle et puis il me parlait toujours de Max, mais son meilleur copain. Etc. Et je lui dis, il me dit, est-ce que je peux inviter Max à la maison? Je lui dis, oui, bien sûr. Et ce Max est arrivé, il était noir, noir, noir. Jamais mon fils ne m'a présenté son copain comme noir. Ouais. C'est Max, point de ligne. Ça, c'est l'enfant avant la contamination,
c'est ça,
par l'environnement social.
Justement, Jean demande, est-ce que le racisme touche toutes les couches sociales d'une société?
Et alors, l'expression est différente aussi. Évidemment, non, bien sûr que ça touche tout le monde et il faut être simpliste pour croire que ça touche pas tout le monde. Ça touche toutes les couches sociales et tous les âges.
Ouais. On va écouter un extrait de l'hymne à l'amour version Jacques Dutronc.
Bougnoul, Niakwe, Raton, Youpin. Kouya, Gringo, Rasta, Ricain. Polak, Hugo, Shinton, Pékin.
C'est l'hymne à l'amour.
Moi, le nœud.
C'est l'hymne à l'amour.
Moi, le nœud.
C'est l'hymne à l'amour, moi, le nœud. Voilà, Jacques Dutronc. Ouais. Alors, vous allez faire beaucoup d'émissions pour parler de votre livre, Marie Treves. Et ce sera votre hymne à vous, parce que chaque fois, on vous le passe maintenant. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est la chanson qui va vous accompagner, qui résume bien, finalement,
l'éventail. Elle est très bien, cette chanson. On devrait la passer plus souvent, d'ailleurs.
L'éventail des possibles, autour des noms. Il y a aussi le mot Niakwe qui désigne péjorativement les Asiatiques, nous dit Jack, alors qu'au Vietnam, les gens se traitent mutuellement ainsi, de manière assez amusante, pour se traiter de paysans, de pécor, car c'est en vietnamien le sens de ce mot.
Exactement. Et c'est venu avec les colons en Indochine, et ensuite, mais aussi pendant la guerre, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, c'était aussi le nom de l'ennemi utilisé par les Français.
Ouais.
Donc pour nous, il a aussi ce sens-là de très péjoratif. Et c'est vrai que ça fait partie des procédés pour nommer l'autre.
Quand on se sent supérieur, on est obligé d'insulter.
Exactement. Et qu'on veut se sentir supérieur, qu'on marque sa supériorité, on est obligé d'insulter. Et de prendre chez l'autre un trait caractéristique. Bon, il y a beaucoup de paysans, c'est son activité normale des Vietnamiens, comme si tous les Vietnamiens étaient des paysans. Alors, on va prélever le mot, comme tout à l'heure, tous les Italiens mangent des macaronis, on va les appeler des macaronis, oui. C'est un procédé d'argot, au fond. Hein. C'est une... L'argot fait ça.
François nous dit « J'ai connu le mot racisme à 11 ans en entrant au collège, en me faisant traiter de sale français. Je m'étonne toujours qu'on parle peu de ce sujet. Ah oui. On évoque le racisme anti-noir, anti-arabe, anti-jaune, mais jamais le racisme anti-blanc. Vous estimez qu'il existe très peu, qu'il n'est pas violent, qu'il ne vaut pas la peine qu'on l'évoque. » Tahar Ben Jelloun.
Non, bien sûr que ça existe, mais c'est pas le plus le plus répandu. Évidemment, dans une classe où il y a une majorité de gamins issus de l'immigration, peut-être qu'ils voient le français avec une sorte de supériorité. Oui, ça existe, mais c'est pas le plus important, je pense.
Ouais. Vous citez quelques termes, justement, Marie Trebs, dans votre livre, les Français de souche, les souchiens, les Gaulois, les Patériètes et les Pères Dodus. Il y a même une marque qui est
Perdodu, oui, c'est une marque de...
Et qui est passée pour exprimer, pour dire qu'on a des blancs, des français. En
c'est récent, ça. C'est-à-dire, c'est mon dernier chapitre, s'appelle Retour de bâton. J'ai justement voulu montrer. Mais ça, c'est récent. Moi, quand j'étais en classe, dans l'Est de la France, au lycée de Longwy, avec des... Mon nom passait presque inaperçu, il y avait beaucoup de noms polonais, et aussi des noms italiens. Et il y avait, bon, ça y est, Rital, les Polaques, mais il n'y avait pas de racisme anti-blanc à l'inverse. Les Italiens et les Polonais s'étaient réappropriés le mot, je pense, eux-mêmes, comme tout à l'heure, il y a des réappropriations, mais il n'y avait pas ça. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus récent. C'est ça se passe depuis 15-20 ans, pas davantage. Et je pense que c'est un phénomène qu'on doit prendre en compte. Il existe.
On a parlé de racisme qui touche toutes les souches sociales, mais je pense que quand on est riche, très riche, on oublie. Enfin, les autres oublient. C'est-à-dire que finalement, quand des Arabes du Golfe viennent au Ritz, eh bien, ils sont très bien reçus. Enfin, on voit en eux tellement d'argent.
L'argent efface l'autre.
Mais au fond, il y a un mépris.
Vous savez, les scandales financiers de la Troisième République qui mettaient entre autres en cause des Juifs riches, ça a beaucoup, contribuer à propager le mot youpin et le mot youtre.
Moi, je trouve le plus dangereux, le plus grave, c'est lorsqu'un parti politique utilise l'instinct ou, disons, le comportement raciste comme socle pour gagner les élections. Et ça, ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit qu'on s'appuie là-dessus.
Hein? Ça l'est, mais il y a des stratégies d'évitement.
Oui, bien sûr.
Quand M. Le Pen, sous couvert d'une formule de politesse, pour montrer qu'il n'est pas anti-arabe, dit Monsieur Mohamed, c'est de l'humour. Et c'est quand même un propos extrêmement raciste caché derrière une formule de politesse. Alors on a beau interdire, est-ce qu'on peut interdire à Monsieur Le Pen de dire ce genre de choses?
Il y a la loi pour ça, mais
c'est un contournement.
On la contourne tout le temps. Mais il y a des partis politiques qui ont fait vraiment leur programme à partir de la haine et de la peur des autres.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion, juste après James Brown et Cold Sweat sur France Inter.
About your thoughts. En dehors de cet enfant, dont j'espère qu'elle s'en sortira, en dehors de cet enfant, ce sont des adultes qui s'expriment. Ce sont des personnes qui ont parfois eux-mêmes des engagements politiques. Donc,
vous parlez de cet enfant qui vous a insulté.
Oui. Oui. Voilà, je ne sais pas. Il y a tellement plus de monde à qui parler de façon intéressante que je ne vois pas pourquoi je gaspillerais une seconde de ma vie à parler à ces gens-là. Mais il faut parler à ceux qui subissent ces agressions. Ils sont extrêmement nombreux. Il faut parler à ceux qui restent indifférents face à cela. Il faut parler à ceux qui croient que c'est banal, qui le croient profondément. Il faut parler à ces gens-là. Mais certainement pas à ceux qui ont fait le choix d'envahir l'espace public depuis plusieurs mois, d'occuper cet espace public par une espèce de convergence des obscurantismes, des conservatismes, des refus de la présence de l'autre. Et quel que soit l'autre, hein, c'est vraiment l'autre qui pense différemment, même s'il leur ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc voilà, ce sont ces combats-là qu'il faut mener.
Voilà la voix de Christiane Taubira, ici même dans la matinale d'Inter en mars 2014. Tahar Benjelloun, justement dans les préconisations que vous faites, hein, pour compléter peut-être ce que vient de dire Christiane Taubira, travail d'information, ça vous le disiez, hein, qui doit être mené auprès de l'ensemble des Français, sur ce qu'est aujourd'hui le paysage humain, au fond, c'est ça aussi l'idée ?
Il faut parler à tout le monde, bien sûr, et il faut faire que la justice se fasse à chaque fois qu'il y a une incitation à la haine raciale. Il faut être vigilant, de toute façon, et accompagner la pédagogie par une vigilance judiciaire. De toute façon, il faut qu'on se sente concerné, parce que c'est pas normal qu'on continue aujourd'hui quand même, après tant d'épreuves, après tant de luttes, à continuer à creuser le fossé entre les uns et les autres, pour des raisons souvent politiques, alors que la France a toujours été une terre d'asile, une terre d'accueil, une terre de mélange, de métissage, et qu'il faut garder à cette France son visage humain, hospitalier et accueillant.
Ouais, et inscrire cette lutte contre toutes les discriminations dans l'enseignement.
Bien sûr, mais je reviens, moi, Simone Dada, il faut aller à l'école et parler aux enfants, c'est plus important.
Marie Treps, les préconisations de la linguiste, tiens, pour essayer de lutter contre ces mots.
Je pense que... Non, il n'y a pas de... On ne peut pas empêcher ces mots-là.
Les expliquer
même
en tous les cas.
Alors la question de, effectivement, Internet a fait que ce qui se produisait plus volontiers dans l'espace privé, c'est vrai. J'imagine les souvenirs de repas de famille. Il y a toujours un beau-frère raciste, en l'occurrence, entre la poire et le fromage. Tout d'un coup, il y a un crouillat qui apparaît. C'était des choses qui étaient intolérables et qui se produisaient dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est démultiplié parce que l'Internet est devenu un espace. C'était dans l'espace privé et est devenu un espace privé aujourd'hui. Et puis les interdictions dont on a parlé tout à l'heure, ont généré des stratégies d'évitement qui font que le racisme est toujours là, même sans ces mots-là. À un moment de la rédaction de ce livre, je me suis dit, tiens, au fond, c'est un livre du passé. Comment ça s'est passé? Mais aujourd'hui, on les emploie plus. En même temps, dire que la France a été toujours une tradition d'hospitalité, oui, mais aussi une tradition de racisme et d'exclusion. Alors, si le vieux racisme le racisme au sens propre, déjà, autre race, puis le racisme xénophobe, et puis le racisme... Bon, si ça a disparu, il y a aujourd'hui une nouvelle forme de racisme qui met en avant des cultures et voire des religions différentes.
Tahar Benjelloun.
Oui, mais alors là, évidemment, quand on parle maintenant de l'islam, c'est accompagné d'un nouveau racisme parce que c'est, malheureusement, il y a eu un amalgame entre cette religion et le terrorisme. Et en ce moment, les musulmans ne sont pas bien vus, ils ont une très mauvaise image et ils en souffrent énormément.
Bien sûr.
Tout à l'heure, quand on parlait du racisme anti-blanc, moi je pense que c'est vrai qu'il y a un racisme anti-blanc, mais qui est beaucoup moins répondu, moins grave que le racisme contre les juifs, par exemple, ou contre les musulmans aujourd'hui, parce qu'il y a une situation de crise qui favorise ces espèces de rejets et qui est une espèce de haine et de névrose qu'on jette sur les autres, alors que finalement, ça ne résout pas le problème de haïr les autres. Il ne s'agit pas de les aimer, mais simplement de les respecter. Et ça,
c'est
quelque chose,
que
c'est une pédagogie qu'il faut faire aussi dans les médias et dans les écoles, parce que finalement, On a bien distingué la distinction entre l'acte terroriste qui n'a rien à voir avec la religion et ne pas confondre les deux. Pas les confondre.
C'est vrai que les situations de crise sont propices au racisme. Et quand l'être humain a disparu derrière sa caricature, hein, à travers ces mots-là, et qu'il y a une situation de crise, eh bien, le pire peut se produire. Ce ne sont pas des Sénégalais qu'on a envoyés dans les tranchées, hein, mais des bamboulas, et ce ne sont pas des humains qu'on a raflés pendant la dernière guerre mondiale, mais des youpins.
Il faut rappeler qu'il y a eu quand même 70 000 goumiers marocains qui ont laissé leur vie pendant la Deuxième Guerre mondiale pour que la France soit libérée. Ça... Pas que des Marocains, il y a des Sénégalais aussi, les tirailleurs signalés. Et ça, il faut le rappeler de temps en temps, simplement parce qu'il y en a qui ont donné leur vie pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont participé à la libération de ce pays.
Allez, je termine par quelques messages des auditeurs. Myriam nous dit, ce n'est pas parce que M. Guerlain a dit qu'il avait travaillé comme un nègre qu'il a été condamné par la justice, mais parce qu'il a ajouté, si tant est que les nègres travaillent.
Oui, c'est juste.
Ouais. Fanny nous dit, j'ai grandi dans une ville minière du Nord-Pas-de-Calais. Les derniers arrivés pour travailler dans les mines étaient les maghrébins, il y avait une expression qu'on utilisait fréquemment, du travail d'arabe, hein, pour un travail bâclé. Je me suis rendu compte de son côté violent et raciste que très tardivement, en quittant cette ville, pourtant chez nous, c'était courant de l'utiliser.
C'était courant, oui. Mais c'est... Ici, ça prend une dimension particulière. Quand on sait, j'ai écrit ça dans d'autres circonstances, que pour les Néerlandais, faire du travail à la française, ça veut dire exactement la même chose.
Exactement, oui.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est quelque chose d'universel.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Marie Treps et Tara Benjelloun. Marie Treps, donc La Fabrique des Insultes, Maudit Mot, c'est aux éditions Tohu Bohu. Et puis Tara Benjelloun, toujours Le Racisme expliqué à ma fille, toujours d'actualité avec cette nouvelle édition augmentée. Et puis plus récemment encore, Le Terrorisme expliqué à nos enfants, que vous signez toujours au Seuil, Tara Benjelloun.
Tout à fait.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.